Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous reprenons notre lecture du livre « Monsieur le curé fait sa crise » écrit par Jean Mercier aux éditions Quasar. Benjamin, le prêtre en charge de la paroisse, n'arrive plus à pacifier la paroisse Sainte-Marie aux fleurs, composée de plusieurs petits clochers autour d'un clocher plus important. La paroisse très diverse et les masses devant se déplacer pour satisfaire chaque clocher posent nombreux problèmes. On a même lu dans ce précédent épisode « Ce soir, lors de la réunion de l'EAL, équipe d'animation locale, la charité chrétienne avait du relent de siphon dévié. » Et plus loin, le débat s'est achevé en pugilat verbal dans lequel toutes les rancœurs accumulées depuis des mois ont explosé. Reprenons notre lecture et nous allons voir comment ça se passe. Chapitre 5. Une lubie qui coûte cher. Ouf, enfin un break. Ce matin, Benjamin prend le volant de sa voiture, non pas pour rendre visite à quelques paroissiens isolés, mais simplement pour se faire du bien. Il prend une journée pour lui, direction Paris, où se trouve son confesseur, le père Maurice. Ce prêtre est un vieux religieux de 80 ans, un homme solide qui a traversé les tempêtes de l'après-concile. Il a vu tant de confrères partir pour se marier, s'accomplir en tant qu'homme, comme ils disaient tous. Rien n'effraie ce vieux sage. Benjamin peut lui raconter ses combats quotidiens et le reste moins reluisant. Il finit toujours par se mettre à genoux pour se confesser, vide son sac et se relève en paix. Seulement, voilà, le père Maurice n'est plus très jeune. Il a eu quelques alertes de santé assez inquiétantes. Benjamin se demande souvent ce qu'il fera sans ce confident hors pair. Au volant de sa Twingo blanche, Benjamin se remémore sa semaine pour mieux préparer son entrevue. Après la pétition d'Enguerranguerre qui a éclaté avant-hier comme une bombe, il a immédiatement contacté Jean-Philippe pour lui demander de réagir. L'évêque a pris les choses avec plus de recul que lui. « C'est fou! Les idées de guerre sont partout chez nous! On croirait du Charles Maurras! » Face à l'angoisse qui monte dans la société, certains cathos sociologiques se réfugient d'autant plus dans ce type de combat qu'ils n'ont pas d'enracinement dans la foi. Mais je crois que tu as fait une erreur en t'attaquant à lui par mail. Avec ce genre de dingue, il faut garder la tête froide. Ne laisser aucun écrit qu'on puisse utiliser contre toi. Une fois de plus, tu t'es laissé emporter par ton caractère passionné, Benjamin. Une fois de plus, donc, cette semaine, Monseigneur Vignon lui a reproché son manque de prudence et ses accès de colère. L'évêque lui a fait comprendre qu'il se serait bien dispensé d'une intervention médiatique. Mais il a pondu le même jour un communiqué de presse pour récuser toute possibilité de démission de l'abbé Bucquois, évidemment. Il y a eu aussi ce coup de fil pénible d'Ildefonse Laporte, responsable d'un groupe monté sur le diocèse pour lutter contre l'idéologie sociétale issue de la loi Taubira. Ildefonse est très mobilisé contre tout ce qui menace la différence des sexes. Il milite également pour une éducation sexuelle traditionnelle. Il raconte volontiers que sa passion pour le respect de la morale sexuelle catholique lui vient de son saint patron, Ildefonso, un Espagnol du 7e siècle, ardent défenseur de la pureté des mœurs face à une sexualité débridée. C'est du moins ce qu'affirme Victor Hugo dans sa Légende de la nonne, où il raconte comment Dieu punit une religieuse qui a fauté. Même s'il n'était pas un pilier de sacristie et qu'il est mort sans se confesser, Hugo sait raconter des histoires édifiantes. Dans la dernière strophe de sa légende, il explique que Saint Ildefonse imposait aux religieux de son ordre de méditer sur la punition divine endurée par la religieuse fautive, histoire qu'ils se tiennent à carreau. Bien plus tard, Georges Brassens a fait une chanson fameuse de cette affaire sulfureuse. C'était en 1956, l'année où Ildefonse Laporte a été conçu par ses pieux parents. Là, Ildefonse n'a pas d'humour, comme Brassens. Et il s'est un peu énervé cette semaine. Il a relancé Benjamin sur le projet d'une formation anti-gender sur la paroisse de Saint-Germain-la-Villeneuve. Le gender, Benjamin aborde. Mais il se demande si c'est réellement une urgence d'appeler à la croisade autour de ce thème quand des milliers de migrants crèvent en Méditerranée. Lorsqu'il a dit ça à Ildefonse, celui-ci lui a rétorqué sèchement. « De toute manière, vous vous refusez à soutenir la morale catholique. Au moment de la manif pour tous, vous n'avez pas su mobiliser les gens en chair et vous n'êtes pas venu manifester à Paris avec nous. » Benjamin est découragé. Il lui a déjà expliqué à l'époque qu'il ne voulait pas, en tant que pasteur de tous, envoyer un message négatif à ceux de la paroisse qu'il sait concerné de près ou de loin par l'homosexualité, même s'il désapprouvait la loi Taubira. Ildefonse n'a pas compris et ne comprendra probablement jamais, se dit sombrement Benjamin en enfournant sa carte de crédit dans la borne du péage de l'autoroute. Dans le panier de cette semaine, il y a également eu cette autre explosion de colère avec la responsable de la liturgie. Dévouée corps et âme à ce secteur clé de la vie ecclésiale, Monique Bouchard tient le registre des lectures et choisit les chants de la messe dominicale. Pourtant, cette sextagénaire confondante de bonne volonté ne connaît pas vraiment la science liturgique, bien qu'elle ait suivi un stage de formation en 1976 avec une sommité de l'époque. 40 ans plus tard, elle raconte avec exaltation qu'un prêtre avait alors célébré la messe avec un nez en plastique rouge pour faire sourire les gens. Ah, quelle idée superbe ! Nous devrions tous avoir des têtes de ressuscité à la messe. Les relations avec le curé n'ont pas manqué de se tendre lorsque Benjamin a imposé ses chasubles vintage, l'encens et les servants d'autel. Puis il s'est mis à critiquer les choix de chant de Monique, notamment il y a quelques mois, lors du dernier mercredi des cendres, lorsque Monique a entonné en ouverture « Je crois au Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ». Cette semaine, l'affrontement est monté d'un cran. Monique avait organisé une réunion avec les parents des enfants qui préparent leur première communion en conviant le curé. Après son laïus sur la tenue vestimentaire des enfants pour la cérémonie, Monique a cédé la parole à Benjamin. Dans un raclement de gorge, celui-ci s'est lancé. « Chers parents, merci d'être venus si nombreux, je vous félicite pour vos enfants. Pourtant, vous voilà en face d'une énorme responsabilité. Si vous avez choisi de venir ici, en effet, cela signifie avant tout que vous vous engagez à venir à la messe tous les dimanches afin d'accompagner vos enfants. Je mesure à quel point cet engagement est courageux pour certains d'entre vous qui n'en ont pas l'habitude. Il implique de plus d'autres engagements très importants qui vous ont peut-être échappé et que je souhaite vous rappeler. D'une part, venir à la messe pour recevoir le corps du Seigneur vous engage à vivre avec le Seigneur, c'est-à-dire à être en union avec lui toute la semaine, pas seulement pendant l'heure de la messe. C'est cette union que vous désirez vivre avec lui pendant la semaine, dans votre vie de famille, votre vie de travail. Elle vous autorise à communier si vous voulez. Vous vous engagez donc désormais à vivre le pardon et l'amour avec vos voisins, vos familiers, surtout au travail. Et je sais combien c'est dur. Mais vous vous engagez à venir au Seigneur avec le cœur pur autant que possible. Je sais bien que c'est pratiquement impossible, mais le sacrement de la réconciliation nous remet en ordre de marche. Nous aussi, les prêtres, nous nous confessons, et pour nous non plus, ce n'est pas une partie de plaisir, je vous assure. C'est important de le faire régulièrement. Vos enfants vont se confesser avant de recevoir le Seigneur pour la première fois, et ce serait bien que vous puissiez le faire vous aussi. Nous allons organiser une célébration pénitentielle à laquelle les enfants et les parents seront invités. Je demanderai à d'autres prêtres de venir. Même si le secret de la confession est absolu, c'est parfois plus facile d'aller voir un prêtre qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra plus. Les paroles du prêtre ont cloué de stupéfaction la petite assemblée. Après avoir aspiré une goulée d'air, Benjamin a repris. Autre chose, je sais que certains d'entre vous ont des difficultés à croire que Jésus est réellement présent dans l'hostie. Je comprends cette difficulté. C'est loin d'être simple. Mais, pour parler franchement, je crois que la façon dont nous communions nous aide à croire ou à ne pas croire. Je pense pour ma part qu'on a beaucoup banalisé l'Eucharistie en communiant de manière un peu trop relâchée depuis une quarantaine d'années. On prend l'hostie dans ses mains et on l'avale de façon distraite, en regardant dans le vide comme un biscuit apéritif, tout en tournant les talons pour rejoindre sa place. Il me semble que ce n'est pas tout à fait ajusté. Attention, l'idée n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous proposer autre chose qui permettrait à certains de mieux comprendre la présence réelle du Seigneur dans l'hostie. Je vous propose d'offrir vos mains comme un trône, comme dit Saint Gilles de Jérusalem, et là, d'y recevoir le Seigneur. Ensuite, portez-le à votre bouche tout en le contemplant, vos yeux fixés sur lui et vos deux mains toujours l'une sous l'autre. Je vous invite à lui dire dans votre cœur quelques mots d'amour comme « Seigneur Jésus, je t'aime » ou bien « Seigneur, sauve-nous, sauve-moi » ou d'autres mots que le Saint-Esprit vous inspirera à ce moment-là. Vous mangerez le Seigneur tout en le regardant dans l'hostie. Vous l'aurez intégré de façon amoureuse et concentrée. C'est cela qui compte. Le pire, vous voyez, c'est de ne pas faire à fond les choses importantes. Et surtout, n'oubliez pas ce mot d'amour quand vous adorez le Seigneur en portant vos mains à votre bouche. C'est important. Benjamin s'est arrêté là. Un silence de plomb était tombé sur l'assistance. Monique leva la tête pour dire d'une voix d'outre-tombe « Bon, je crois que tout a été dit. Rendez-vous la semaine prochaine pour la finalisation technique. » La salle se vida dans des chuchotements. Restée seule avec l'abbé, Monique sentit la colère monter en elle, telle une bouteille d'orangina un peu trop secouée. « Mais vous êtes fou avec vos idées. Vous nous avez déjà servi les enfants de cœur et l'encens à plein régime, et maintenant la confession obligatoire et les mots d'amour surunés à l'hostie, c'est du romantisme de sacristie. Où avez-vous été chercher ça? Vous croyez vraiment que c'est dans l'esprit de Vatican II? Il ne manquerait plus que vous nous demandiez de nous mettre à genoux comme les intégristes. » Benjamin se trouva tout décontenancé. Jamais Monique n'avait explosé. Jusqu'à présent, elle avait toujours su se contenir. Cependant, il ne voyait pas pourquoi elle se sentait agressée personnellement. Il reprit la parole. « Monique, ne vous mettez pas dans cet état-là. Je ne cherche pas à faire l'intégriste. Je veux juste aider les gens à mettre plus de cohérence dans leur vie, dans leur pratique. Vous comprenez ? Je pense vraiment qu'on doit faire attention à la façon dont on fait les choses, intérieurement et extérieurement, car les deux choses sont liées. Benjamin n'eut pas le temps de finir. Monique se leva d'un bond et sortit. Voilà toute l'histoire qu'il s'apprête à confier à l'oreille du père Maurice. A-t-il été péremptoire avec Monique ? A-t-il raté une bonne occasion de se taire en proposant la confession aux parents des premiers communiants ? Le vieux prêtre saura bien lui dire franchement ce qu'il en pense.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 6. Un attentat bien ciblé. Depuis que l'abbé a annoncé qu'il organiserait une veillée de réconciliation avant la célébration de la première communion, c'est le branle-bas de combat dans la paroisse. Avec quelques amis, Monique a pris la tête de l'insurrection contre ce qu'elle qualifie de dérive totalitaire du curé. Cette obsession du péché est insupportable. On se croirait revenu à l'avant, Vatican II. Certes, les parents sont libres de participer ou pas à la célébration, mais la plupart se sentiront obligés d'y aller. C'est une atteinte à leur liberté. Elle est bien décidée à faire capoter l'affaire. Benjamin, il est vrai, accorde une importance majeure à ce sacrement très délaissé, notamment par son prédécesseur qui ne jurait que par l'absolution collective annuelle. L'une des premières mesures du curé à son arrivée a été de réhabiliter un vieux confessionnal en bois. Seul rescapé du grand nettoyage des années 1970, lorsque les vieilleries d'antan, statues de plâtre, dessins, chasubles brodées, surplis à dentelle, ont disparu de l'église au nom de l'Aggiornamento de Vatican II. Épargné de cet élan purificateur, la boîte à péché avait été transformée en placard fourre-tout dans lequel Madame Basile, la gouvernante du curé, entreposait ses balais, balayettes, pelles à poussière, chiffons et produits d'entretien en tout genre. En chair, l'abbé avait justifié la réhabilitation du confessionnal d'un trait d'humour diversement apprécié par ses ouailles. À partir de maintenant, c'est Jésus qui fera le ménage dans nos âmes. Benjamin avait expliqué que si c'était son oreille et son cœur qui faisaient le travail, c'était pourtant Jésus qui lavait les péchés en les pardonnant à travers lui. « Il se prend pour Jésus !» s'était indignée Monique intérieurement. Benjamin ne confesse pas systématiquement dans la boîte, mais il en propose l'usage dès qu'il peut. Les jeunes enfants sont fascinés par ce décorum si exotique. Le petit agenouilloir, la petite grille, les petits mots susurrés dans la pénombre. Ce parfum d'incongruité et de mystère si éloigné de leur jeu vidéo rend le moment plus délectable que désagréable. L'abbé a rétabli des permanences régulières, deux fois par semaine. Mais, en vérité, personne ne vient. Et il passe des heures à dire son chapelet ou à lire quelque ouvrage de spiritualité. Quand il ne se cure pas les ongles, ou plus technique, le nez. Certes, Benjamin aime cette odeur de cire d'abeille mêlée aux tenaces effluves de Miror et de lessive Saint-Marc qui demeurent depuis que les armes de Madame Basile ont trouvé leur place à la sacristie. Mais, au fond de lui, il voit ce qu'il y a de décourageant dans ces heures d'attente du chaland qui ne vient pas. À part quelques fidèles pieuse dame, il peine à attirer les cœurs qu'il rêve d'amener à Dieu. Sur le front de la conversion des âmes, c'est un vide intersidéral. Le dimanche qui suit, à la fin de la grand-messe de 11h, Monique harponne Benjamin à la sacristie, alors qu'il est en train de retirer sa chasuble. « Mon père, votre idée de faire pression sur les gens pour qu'ils se confessent a créé l'émoi dans la paroisse. » Voici une pétition signée par plusieurs d'entre nous. » À peine Benjamin a-t-il entendu la fin de la phrase que Monique a tourné les talons. Il ouvre l'enveloppe et déplie rapidement une feuille pliée en quatre. « Cher père, nous refusons votre obsession du péché qui va clairement à l'encontre de l'esprit de Vatican II, dont nous vivons depuis tant d'années. Nous rejetons la confession imposée aux parents des premiers communiants. Elle est abusive. » Une quarantaine de noms et de signatures sont apposés en bas de ce bref texte. Benjamin n'est pas tellement surpris. Pendant la grand-messe, devant l'atmosphère de plomb qui régnait dans l'assemblée, il a compris de façon intuitive qu'il a sacrément compromis son autorité depuis quelques jours. Sa lubie a été perçue comme un oukase clérical. Quand il en a parlé au père Maurice l'autre jour, celui-ci lui a laissé entendre qu'ils agissaient d'un excès de zèle pour le récurage des âmes et il aurait mieux fait de s'en abstenir. Le confesseur de Benjamin s'est permis ce jugement car il est bien placé pour savoir que l'impétueux curé est atteint d'un mal qui affecte nombre de ses congénères, la tendance à l'autoritarisme et même l'abus de pouvoir pour peu que le stress s'en mêle. Mais Benjamin est bien trop fier pour l'admettre devant ses paroissiens. Et pourtant, il a exagéré. Le curé passe le dimanche après-midi à ruminer ce qui lui apparaît clairement comme son échec. Au fond de lui, il sait bien que cette affaire est la goutte qui fait déborder le vase de nombreux piliers de paroisse qui n'en peuvent plus depuis son arrivée, depuis ses innovations. On lui reproche parfois d'être un ultra. Radical, Benjamin l'est en effet face à certains trésors, tels que les sacrements, qui pour lui ne peuvent être bradés comme ces objets qui restent à la fin d'une foire à tout lorsque le propriétaire fourgue sa dernière caisse au dernier venu pour un euro symbolique. Le lendemain, lundi, les rangs sont clairsemés à la messe. Le mardi et le mercredi, il y a encore moins de monde. Le jeudi soir, à la messe de 18h, il se retrouve carrément tout seul. Un immense découragement l'envahit soudain, comme si tous les sentiments négatifs accumulés depuis son arrivée à la tête de la paroisse se déchargeaient en lui de façon irrésistible. Les digues patiemment construites par la prière semblent avoir rompu. Le prêtre s'enfonce dans une tristesse mêlée à un ressentiment colossal contre l'Église. Alternativement, il se répète « Je n'y arriverai jamais. Ils sont irrécupérables. Je suis vraiment nul. Il ne s'est jamais senti aussi malheureux. » Le soir est tombé sur ce pénible jeudi. Benjamin s'apprête à fermer l'Église. D'habitude, avant la nuit, il aime vérifier en bon capitaine l'état de son navire, inspecter les espars avant le grand repos de l'obscurité. Il aime gratter les restes des cierges qui se sont écoulés devant Sainte-Thérèse ou faire un peu de vide sur les tables où s'accumulent de vieux journaux. Une fois les portes fermées, il se pose devant le Saint-Sacrement dont la veilleuse pourpre est comme un fanal réconfortant dans la pénombre. Il reste de longues minutes à genoux, sur la dalle froide, savourant ce moment, enfin, seul, avec lui. Ce soir-là pourtant, la routine tourne au cauchemar. En passant devant le confessionnal, il sent une odeur suspecte. Pris de panique, il ouvre la porte. Horreur ! Des excréments ont été dispersés sur le coussin qui recouvre le siège. Au-dessus se trouve punaisée une feuille de papier sur laquelle on peut lire en gros caractères écrit à la main « Vous voulez qu'on vous raconte notre merde ? La voilà !» Chapitre 7. Un coup de poignard dans le dos. Tu sais, je me suis sentie souillée. Ce confessionnal, c'est un peu une extension de mon corps. Jamais je n'aurais cru qu'ils iraient jusque-là. Un verre de vin rouge à la main, Benjamin vient de terminer de raconter son terrible découverte à son cher confrère Julien Potier, l'un des rares prêtres du diocèse qu'il considère comme un ami. Sitôt, après avoir nettoyé le confessionnal, il l'a appelé pour lui raconter l'incident et savoir s'il pouvait passer chez lui pour décompresser un peu. Par chance, Julien était disponible. Ce prêtre, plus jeune que Benjamin d'une quinzaine d'années, représente cette jeune génération de catholiques à la fois détendus et sûrs de leur foi, rayonnants et heureux de témoigner du Christ. Sa personnalité charismatique a inspiré à Monseigneur Vignon de le nommer responsable de l'évangélisation pour le diocèse. Durant sa formation, il s'était pourtant spécialisé, comme Benjamin, dans le domaine biblique, et à ce titre, ils ont échangé beaucoup de livres puisés dans leurs bibliothèques respectives. Julien a commencé une thèse sur le livre de Jérémie. Benjamin admire l'énergie et la sagesse qui attirent à ce collègue de nombreux jeunes en quête d'un accompagnement spirituel exigeant. Certes, Julien n'a pas le statut de curé, mais Benjamin lui envierait presque ce poste en dehors de la hiérarchie territoriale où il n'a pas à régler les conflits entre les gens, où il échappe à la routine en contact avec des réalités en mouvement et dynamiques. Il est aussi secrètement un peu jaloux de cette aisance avec laquelle Julien assume sa sensibilité liturgique, encore plus traditionnelle que la sienne. Il lui arrive même parfois d'endosser la soutane. Juste après son ordination, il y a 25 ans, Benjamin a pour sa part eu bien du mal à imposer son col romain. À cette époque, les signes extérieurs de prêtrise provoquaient un arrêt cardiaque chez certains catholiques. Il se dit souvent que ses jeunes collègues ne réalisent pas à quel point il est simple d'assumer leur identité par rapport au temps où il est sorti du séminaire, au milieu des années 1990, et combien il est plus facile pour un jeune prêtre d'aujourd'hui d'assumer sa sensibilité personnelle. Pouvoir être soi-même, mais quel luxe ! Julien a tiré une bonne bouteille de sa cave et improvisé une quiche. Benjamin raconte ces dernières semaines particulièrement tendues, cette impression qu'il a de lutter contre les vents contraires. Il raconte l'altercation avec Evelyne et le recadrage de Monseigneur Vignon, les Kleenex de Brigitte et la sciatique de Guillemette, les pétitions de Monique et d'Enguerrand, les coups de boutoir d'Île-de-France. Ce repas, tout simple, est tout bonnement providentiel pour se consoler. Au fond, Benjamin se demande si Julien n'est pas le seul à le comprendre vraiment. Après le dessert, Julien annonce d'une voix un peu timide. « Benjamin, je voulais t'apprendre que l'évêque m'a nommé professeur d'écriture sainte au séminaire à partir de septembre. » La nouvelle lui fait l'effet d'une lame de poignard entre les omoplates. « Quoi ? Le poste dont il rêve depuis des années lui échappe ? Quand son évêque l'a convoqué il y a une semaine, il s'est bien gardé de le lui dire ? Quelle lâcheté ! Quelle injustice ! Julien n'a même pas encore bouclé son doctorat, contrairement à lui. » Livide, Benjamin se lève d'un bond. Il empoigne sa veste et quitte brutalement le presbytère de son ami sans un mot. Julien, sidéré, n'a pas le temps de réagir. Dehors, la voiture démarre en trombe et s'évanouit dans la nuit.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 8. Le bal des fantasmes. « Mon Dieu, mais quelle horreur ! » lâche Madame Basile en portant les mains à sa bouche dans un mouvement d'effroi. « Mais ce n'est pas possible !» Elle relie, médusée, le carré de papier qu'elle vient d'extraire de l'enveloppe. La vieille gouvernante a pourtant bien lu ce qu'elle a lu. Elle a même reconnu l'écriture de son cher curé. « Je n'en peux plus, je préfère disparaître. Père Benjamin. » La panique l'envahit. Elle court dans la chambre du prêtre, qui lui semble plus vide que d'habitude. C'est elle qui fait le ménage et elle remarque immédiatement que le sac à dos n'est plus sur l'étagère, tout comme le bréviaire sur le bureau. Dans la salle de bain, il manque une ou deux serviettes ainsi que la trousse de toilette. Dans la penderie, les chemises ont disparu, tout comme les caleçons et les chaussettes dans les tiroirs. Aucun doute, l'abbé est parti avec ses effets personnels. Sur la table de travail trônent le téléphone portable et le trousseau de clés bien en évidence. Madame Basile jette un coup d'œil par la fenêtre. La voiture est sagement garée devant le presbytère. Ça alors ? Mais il a dû partir à pied ? Il est 8 heures du matin. Instinctivement, la vieille dame prend le téléphone et appelle la gendarmerie. « Allô ? J'écoute !» Le brigadier-chef Isidore Dubief a décroché d'un geste machinal. Son visage luisant de sueur et festonné de coupe rose se crispe dans un rictus d'habitude propre à la constipation et qui est fréquente chez lui. « Quoi ? Le curé a disparu ? Il a laissé une lettre ? Bon, ne touchez à rien, j'arrive. » En reposant le combiné, Dubief répète les yeux ébahis. « Le curé a disparu ? Le curé a disparu ? La journée commence bien. Il était tranquillement en train de siroter le café du matin avec Jennifer Duploux, reporter à l'écho germanois, la feuille de chou locale, et il préférerait largement continuer à deviser avec cette ravissante créature plutôt que de partir à la chasse au cureton. Le café du vendredi matin est le plus savoureux de la semaine. Jennifer passe systématiquement ce jour-là pour tâter l'ambiance, c'est-à-dire pour nourrir la rubrique des faits divers dont elle a été chargée par le rédacteur en chef Sébastien Dufay. La voilà qui bondit surexcitée. « Quoi ? Le curé a disparu ? Mais c'est un truc de fou ! Racontez-moi vite !» Le gendarme est bien obligé d'en dire davantage. Sa gouvernante dit qu'il est parti cette nuit apparemment. Il a laissé un mot disant qu'il en avait ras-le-bol et qu'il disparaissait. Il est parti à pied en plus. Il n'a pris ni voiture ni portable. Impossible de le géolocaliser donc. Il n'a sans doute pas envie qu'on le piste, le malin. En tout cas, ça promet de sacrées emmerdes. La religion, c'est que des emmerdes, je vous dis. Terminons notre café. Le brigadier-chef n'a pas le temps de replonger son énorme nez dans le gobelet en carton que Jennifer est déjà pendu à son téléphone. « Sébastien, j'espère que le journal n'est pas encore parti chez l'imprimeur. J'ai le scoop du siècle. Imagine-toi que le curé a fait une fugue. Je te rappelle dès que je peux. » 25 minutes plus tard, le brigadier-chef Dubief franchit la porte du presbytère, suivi de près par Jennifer. Le presbytère bruisse comme une fourmilière, car la nouvelle de la disparition de l'abbé s'est répandue dans le bourg comme une gastro-entérite dans une école maternelle. Le Pandore, avec la délicatesse qui le caractérise, lance à la cantonade. « Alors, monsieur le curé s'est fait la belle ? J'espère qu'il est à la plage et pas tout seul. » Mais son trait d'esprit n'a pas plus d'effet que le souffle d'une carmélite dans un alcotest un jour de carême. Isidore Dubief a beau questionner. Personne ne sait rien sur le mobile ou les circonstances de la troublante disparition. Chacun fourrage dans sa cervelle en quête d'indices. Certains font même preuve d'une imagination furibonde. Madame Vasseur, l'infirmière est formelle. Revenue très tôt ce matin de sa tournée, elle a bien vu dans son rétroviseur l'abbé marcher sac au dos vers l'est. Monsieur Boutrou, le patron du bar-tabac, a quant à lui reçu un appel de sa cousine qui affirme avoir reconnu l'infortuné curé sur un quai de gare au même moment à 50 km de là, mais à l'ouest. Chacun gère l'angoisse comme il peut. À genoux dans l'église, Guillemette et Thibault récitent le chapelet avec leurs enfants devant la chapelle de la Vierge. Brigitte s'est installée sur l'ordinateur paroissial à la recherche d'une photographie de l'abbé pour diffuser un avis de recherche. Il faut le retrouver, plutôt vif que mort. La crainte d'un suicide lui serre la gorge. Stanislas, l'aîné des servants d'hôtel, débarque tout essoufflé au milieu du presbytère. « Je reviens de la sacristie. Le père Benjamin a dû partir sacrément chargé. Il a emporté son aube et une chasuble, la verte, car je ne la retrouve plus. Il a aussi raflé toute la réserve d'hosties et toutes les bouteilles de vin de messe. Il manque un calice, une patène et une nappe d'autel, et tous les cierges ont disparu. » Le mystère s'épaissit. « Mais je me sens mieux, » déclare Brigitte soulagée. « S'il a embarqué tout ce matériel, ce n'est pas pour aller se balancer du haut d'un pont ou se jeter sous un train. » Dès le début de l'après-midi, Jennifer sort d'un article sur le site de l'Écho germanois. Un vrai roman. Le père Bucquois aurait agi avec l'aide d'une complice venue le chercher en voiture de nuit pour éviter qu'il ne soit repéré. Il s'agirait peut-être d'une amie avec laquelle il a des relations intimes. Le rédacteur en chef Sébastien Dufay a gratifié la une du journal d'un titre croustillant. « Notre curé en cavale ». Le sous-titre résume l'affaire en ces termes. « Fatigué d'être curé, il a pris la route pour une nouvelle aventure. Nos révélations exclusives sur ce mystère. » De quoi bien titiller le chaland. Aucun doute, les ventes de son quotidien, un peu molles ces derniers temps, vont flamber. En se frottant les mains, il pense tout bas. « Pourvu qu'on ne le retrouve pas tout de suite !» Il faudrait que le suspense dure quelques semaines pour que le chiffre d'affaires s'en ressente. À la fin de l'après-midi, l'information a fait le tour de la France, dûment copiée et relayée par mille et un sites sur Internet. Les coups de fil de la presse pleuvent à l'évêché. Pas de chance, Monseigneur Vignon est parti en pèlerinage à Lourdes avec le mouvement des chrétiens retraités. Il est injoignable, car son portable, une fois de plus, est déchargé. À l'évêché, sa secrétaire, sœur Marie-Joseph, manque de s'étrangler à chaque fois qu'elle a un journaliste au bout du fil. « Mais enfin, ça suffit, puisque je vous dis que Monseigneur n'est pas là !»« Mais où est-il donc ?» se demande anxieusement Madame Basile, juste avant de s'endormir, tout en laissant couler son dentier dans un verre où frétille un comprimé de Paxodan. « C'est un brave prêtre. Je ne le vois pas se faire sauter la cervelle, ni courir les filles. Il finira bien par revenir. À mon avis, ce n'est qu'une petite fugue. Sainte Vierge, ramenez-le-nous. » Madame Basile, la gouvernante du curé, est la première informée de ce qui s'est passé. « Je n'en peux plus. Je préfère disparaître, père Benjamin. » Quelques mots de l'écriture du curé sur ce carré de papier, dans une enveloppe, l'attendaient à son arrivée à la cure. Elle a beau chercher, l'abbé est parti avec ses effets personnels. Mais sans son téléphone, sans le trousseau de clés, et la voiture est toujours garée devant le presbytère. Elle informe aussitôt la police, puis la nouvelle va se répandre rapidement dans la France entière. Notre prochaine lecture nous la racontera plus en détail. N'oubliez pas, je lis pour vous. Sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+. En direct ou en podcast, sur le site de la radio. À très bientôt si vous voulez en savoir plus.